Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, la reine de l'émission d'information locale de Canal B et de retour pour une nouvelle année que je vous souhaite la plus douce possible. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour des mesures de la préfecture face à l'épisode de froid qui est en cours, un reportage à la rencontre du réseau D1 et d'une association qui planche ensemble sur l'ouverture d'un collège en Ille-et-Vilaine. Il y aura de la musique dont une nouveauté, une interview de François-Xavier Mérien pour son livre « L'eau et la ville » qui est paru aux presses universitaires de Rennes, et puis une recommandation de Corentin pour réduire ses déchets. Bienvenue dans l'arène. Allez, l'info du jour pour commencer. Vous l'avez sans doute remarqué en sortant aujourd'hui. Un épisode de froid a débuté ce lundi 8 janvier dans le département et ailleurs en France. La température moyenne des 30 stations météorologiques pourrait passer sous les 0 degrés mardi, ce qui n'était pas arrivé depuis près de 6 ans. Alors en Ille-et-Vilaine, les températures elles ne sont pas suffisamment basses pour que le plan grand froid soit déclenché. Mais la préfecture a quand même pris plusieurs mesures. Les horaires des structures d'accueil pour les personnes à la rue sont étendus. Les maraudes renforcées sur les villes de Rennes, Fougères et Saint-Malo. Et puis les dispositifs de veille sociale sont quant à eux particulièrement mobilisés. Chez nos voisins costa-armoricains, il y a aussi 19 places d'hébergement supplémentaires qui ont été ouvertes en cas de saturation. Auditeurs, si vous rencontrez une personne sans abri ou mal logée et qu'elle vous semble en difficulté, le mieux est de composer le 115, numéro d'urgence sociale, qui est malheureusement souvent saturé d'appels, il faut quand même leur dire. Pour plus d'infos, il y a aussi le site internet dispositif-siao35.fr, SIAO pour Service Intégré d'Accueil et d'Orientation, qui est un dispositif interassociatif en lien avec l'État. Allez, après cette info du jour, place à un reportage. Vendredi 5 janvier, après-midi, le réseau D1 et l'association Scolage D1 35 étaient réunis dans les locaux de l'association Scol en Emsav pour signer une convention, une étape importante dans leur projet commun d'ouverture d'un collège D1 à l'horizon 2025. D1, on le redit, qui propose un enseignement en breton et en immersion. L'Ille-et-Vilaine est aujourd'hui le seul département breton à ne pas disposer d'un tel collège, mais quand même déjà de 4 écoles élémentaires pour en tout 271 enfants scolarisés. Allez, reportage.
Je suis Mélisse Boitel et je suis chargée de développement au sein du réseau D1. Et donc je me charge de tous les projets de nouveaux établissements scolaires, que ce soit école primaire ou secondaire, en Ille-et-Vilaine, entre autres.
Moi je m'appelle Bertrand et donc je fais partie de l'association pour le développement d'un collège D1 en Ille-et-Vilaine. Et voilà.
Parents d'élèves.
Parents d'élèves, voilà, sur Rennes.
On commence par représenter le réseau D1, ses spécificités et puis peut-être comment il se porte aujourd'hui dans la région.
Donc le réseau D1, c'est un réseau d'écoles associatives dont la spécificité est d'enseigner en breton, donc en immersion. Donc tous les enseignements sont faits en breton. Et donc les enfants apprennent le breton et en breton. Donc en plus d'être des écoles associatives, ce sont des écoles qui sont gratuites et ouvertes à tous. Et ça, on y tient particulièrement. Et des écoles laïques, bien sûr. Et la gratuité, notamment, vient du fait que ce sont des écoles associatives. Et donc, il y a une force bénévole très, très importante, notamment de la part des parents. Et donc, ça rend l'école assez intéressante.
Peut-être dire un mot sur le lien avec l'éducation nationale. Elles sont conventionnées, les programmes sont construits en lien avec l'éducation nationale.
Oui, absolument. Bah, tous les établissements sont conventionnés avec l'éducation nationale. Donc les programmes sont ceux de l'éducation nationale. Et nos enseignants sont, pour la majorité, sont employés par l'éducation nationale.
Combien d'écoles aujourd'hui à l'échelle de la région et puis sur les différents niveaux
Donc sur la Bretagne entière, donc en comptant la Loire-Atlantique, on a actuellement 47 écoles primaires. Donc primaire, c'est bien maternelle et élémentaire, et 6 collèges et 2 lycées, ce qui représente un petit peu plus de 4 000 élèves.
On peut parler d'un réseau qui se porte bien, enfin, les effectifs sont stables, à la hausse
Oui, les effectifs sont même légèrement à la hausse cette année pour cette rentrée scolaire, ce qui est assez intéressant parce qu'on... Globalement, que ce soit dans le privé et dans le public, c'est un petit peu compliqué ces dernières années pour les effectifs qui ont plutôt tendance à être à la baisse. Et on voit qu'on a quand même une demande sociale qui est assez forte dans beaucoup d'endroits dans lesquels il n'y a pas encore d'école. Donc on a un souhait de développement qui est assez fort également.
Et c'est peut-être le moment où on dit que donc D-Want, c'est de l'immersion, donc 100% en breton. Il y a d'autres filières qui existent plutôt en bilingue où on parle et le français et le breton.
Oui, tout à fait. Donc les filières bilingues sont dites à parité horaire. Donc l'enseignement en breton et en français se fait à moitié-moitié du temps. Mais bon, ça représente quand même des filières qui sont très importantes pour le breton et en Ille-et-Vilaine notamment.
Dans le public et dans le privé ?
Dans les deux, dans le public et dans le privé.
Okay.
Donc suivant les zones de Bretagne, il y a le public qui va être, ou le privé qui va être voilà, plus ou moins fort, mais dans les deux, oui, tout à fait.
J'aimerais bien vous poser la question de savoir ce qui vous a motivé à intégrer le réseau D-Want en tant que parent d'élève.
Alors, moi, en ce qui me concerne, les raisons sont multiples. Une question d'identité. En ce qui me concerne, donc, je suis très attaché à la Bretagne, donc j'ai vécu longtemps à l'étranger. Je parle couramment 5 langues, la cinquième étant le breton. Et donc pour moi, c'était tout à fait naturel, et puis aussi pour l'éducation globale, enfin, je dirais la pédagogie, qui est aussi un autre élément important. Et comment dire, pour moi c'était très important l'immersif, étant donné que pour maximiser l'environnement en breton, en plus on maximise au niveau familial. Bien évidemment le français est acquis, hein, cela va sans dire. Et puis aussi ce sont des écoles associatives, donc cela implique une forte participation à l'école, selon les possibilités de chacun bien évidemment. Mais pour moi ça correspond aussi tout à fait dans mes pratiques d'être bénévole et impliqué, d'autant plus en ce qui concerne l'éducation de mon enfant.
Et est-ce que le breton, vous, était déjà dans votre famille ou vous faites partie de ceux pour qui c'est vraiment un apprentissage ?
Du tout. En fait, moi, je viens originaire de Haute-Bretagne. Le gallo ne m'a pas été transmis. Et ça a été un choix dans mon parcours personnel de m'approprier, par la redécouverte, la question bretonne, en fait, de mon identité. Ou, de mes identités, on va dire. Parce qu'il y a différents degrés à cela. Mais toujours est-il que en fait, donc, j'ai fait le choix de m'intéresser au breton dans un premier temps, quoi, parmi d'autres langues, bien évidemment. Donc voilà quoi. Pour un jeune enfant, en fait, c'est, je pense, enfin à mon sens personnel, très important de maximiser dès le plus jeune âge l'acquisition de différentes langues. Et aussi, en ce qui me concerne, je trouve aussi important, pour contrer aussi l'érosion linguistique, de s'intéresser aux langues plus dites minoritaires, pour permettre aussi, cela donne aussi un point de vue sur le monde, en fait, qui est très intéressant.
Et ça marche comment pour votre ou vos enfants qui sont scolarisés dans le réseau D-Want ? Où est-ce qu'ils en sont ? Qu'est-ce que ça leur apporte d'être dans une école de ce genre ?
Très positif, globalement. Ça reste des écoles, donc avec un petit peu moins d'effectifs. Donc ça, c'est aussi un autre des points positifs. Aussi, on est très impliqués, donc on connaît très bien aussi les autres familles. Et pour mon enfant, ça se passe extrêmement bien, quoi. Donc il a acquis la langue, et puis voilà, tout se passe très bien.
On arrive à ce qui nous réunit aujourd'hui, donc la signature d'une convention entre le réseau D-Want et une association qui porte le projet de développement d'un collège. Peut-être dire que ça fait un moment que le projet est lancé, qu'il y a eu un peu un creux, ou en tout cas en 2020 le projet a été reporté.
Oui, en effet, ça n'est pas un projet nouveau. Et il y a plusieurs facteurs qui font que ce projet a un petit peu tardé, disons. Et notamment, là, un des facteurs qui est très compliqué pour nous à Divante, qui est un facteur clé, c'est de trouver des locaux d'une part et des locaux qui correspondent en plus à où vivent les gens, aux besoins. Et en effet, il y avait eu un projet, mais voilà, qui n'avait pas suscité l'adhésion des familles. Et donc là, on a enfin trouvé un endroit où on a des locaux, où on a, ça serait bien pour les familles, enfin, ça réunit enfin plein de choses. Et c'est pour ça que là, le projet s'officialise et avance.
On peut dire où c'est ?
Tout à fait, ce sera sur la commune de La Boissière.
Pas très loin de Liffré.
Exactement. C'est un endroit du département qui est très intéressant. Les écoles bilingues fonctionnent extrêmement bien. Par rapport aux écoles d'Iwand qu'il y a dans le département, c'est bien situé également. C'est très pratique d'un point de vue logistique, tout simplement, par rapport à la ville de Rennes. Géographiquement, ça réunit plein de critères. Et les locaux qui seraient disponibles seraient également correspondent aux critères de Divante, en sachant que quand on ouvre des établissements secondaires, on a la contrainte de... Enfin, la contrainte... Le choix, en tout cas, d'ouvrir un internat. Et c'est fortement recommandé aux familles que leurs enfants aillent dans l'internat, en sachant que pour les collégiens, c'est 2 soirs par semaine. Et c'est dans un souci pédagogique que les collégiens se retrouvent en immersion au moins sur 2 jours complets de la semaine.
À quel moment s'est lancée l'association dont vous êtes membre ? Elle réunit qui ? Et puis, à quoi vous servez ?
Alors, au niveau de l'historique, parce que moi, j'ai rejoint, il y a un petit peu moins de 2 ans. Toujours est-il que...
Bon, elle existe depuis plusieurs années, quoi.
Ouais, au minimum 2014 et probablement plus longtemps. Okay. Mais voilà, je ne saurais pas dire exactement, étant donné qu'il y a eu plusieurs projets, plusieurs pistes aussi de bâtiments, donc comme a expliqué Maëlys. Et autrement, au niveau des membres, on est actifs juste quelques membres. Voilà, tout le monde étant impliqué, chacun dans son école, parce que ça rassemble uniquement des parents d'élèves pour le moment.
Donc de Rennes, Guipel.
Alors il y a Rennes, Guipel, il y a l'école aussi de Fougères et celle de Dinan aussi qui est inclue dans le secteur, qui est techniquement pas en Ille-et-Vilaine mais est tournée bien évidemment parce qu'on cherchait au niveau de l'Ille-et-Vilaine Nord pour afin de satisfaire tout le monde.
Aujourd'hui, ça implique quoi de ne pas avoir de collège pour, je pense, aux CM2 qui sont en école D1 et qui vont donc rentrer au collège ? Il y a une rupture dans l'apprentissage linguistique ?
Très clairement, aujourd'hui, sur les élèves d'Ille-et-Vilaine, il y en a quelques-uns qui vont au collège de Vannes, au collège-lycée de Vannes. Il y en a quelques-uns qui vont aller dans les filières bilingues qu'il y a en Ille-et-Vilaine. Il y en a très peu. Et il y en a d'ailleurs trop peu par rapport aux élèves scolarisés en breton de manière générale, que ce soit à Diwand ou en filière bilingue. De mémoire, on a un petit peu plus de 1900 élèves qui sont scolarisés, que ce soit en immersif ou en bilingue. Et on a à peu près un petit peu plus de 200 élèves qui continuent en collège. Et si c'est que 200 le chiffre, c'est pas par manque de motivation, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres offres en fin de compte. Donc oui, très clairement, c'est une cassure avec l'apprentissage de la langue qui se passe.
À quoi ça sert ce moment-là de la signature d'une convention donc, entre le réseau D1 et l'association qui défend l'ouverture de ce collège et puis quelles étapes s'annoncent après ça ?
Donc le comité de soutien pour la création du collège, comme toutes les associations d'ailleurs du réseau D1, sont liées entre elles par une convention de réseau. Et donc tout simplement pour officialiser vraiment les projets, quand là on est vraiment sur un projet concret. Et puis ça permet également de... On a une charte au sein de D1, et donc c'est être sûr que les associations qui appartiennent au réseau soient sur la même ligne de fonctionnement que le réseau, tout simplement. Mmh. Et s'engagent sur les mêmes motivations, sur les mêmes objectifs et sur les mêmes valeurs également que ce que porte D1.
C'est quoi la suite ?
Donc en date de rentrée, ça serait la rentrée 2025 pour être serein sur le projet. Quant aux étapes, il y en a plusieurs qui vont se dérouler en parallèle. Il y a l'étape plutôt portée par le comité de soutien qui va être des levées de fonds à avoir pour financer certaines parties du projet. Une partie très forte de promotion également du projet Parce que bon, c'est vrai que nous, en interne, on va informer les familles, et les gens sont déjà au courant d'ailleurs, mais il y a une partie réelle de promotion et de vraiment faire connaître le projet qui est importante pour que les gens adhèrent, enfin inscrivent leurs enfants, mais c'est surtout pour que les gens participent au projet, qui est vraiment quelque chose de collectif qui se crée autour de ça. Après, il y a une partie bien plus administrative qui va se gérer un petit peu plus tard, mais qui est justement à voir avec le rectorat, enfin l'académie. Trouver l'équipe pédagogique. Et après, il y a une partie également qui est en cours de discussion avec les collectivités concernées.
Le département.
Le département, notamment, concernant leur soutien sur ce projet.
Avec, a priori, combien de places qui seront ouvertes dans ce collège-là ?
Il y a plusieurs échelons, en sachant que quand on ouvre un collège, comme les écoles d'ailleurs, on ouvre en premier les premiers niveaux, donc là en l'occurrence ce serait les classes de 6e et 5e qui seraient ouvertes. On ouvre avec un minimum de 20 élèves par classe, donc voilà on table sur 40 élèves pour les premières rentrées. Et après les classes de 4e puis 3e s'ouvrent au fur et à mesure que les enfants grandissent. Et à un moment donné, quand on a suffisamment d'élèves pour en ouvrir une deuxième classe par niveau, on le fait. Donc ce qui nous amène à plus 5 ans, plus 6 ans déjà. Et donc oui, on est sur un minimum de fonctionnement de 4 classes, et avec entre 20 et 25 élèves par an, comme un collège standard.
En orphelin, orphelin ou emprienne de David Lacadère. Mon metteuse à Mylène Dahl avec chouvelle d'inscrivo Berntrau. Et crida dans d'invaligène. Et vide mon mes de Zahrao. Mais n'est que qu'un grévus, ma chemin barret. Qu'un des rêves d'avait en fœtus. Et des spédems spig la harret. Je marron tout juste d'un bruit point aigu des nous. Force nous hirier en dé. Avec Berbi des nous. Goulet d'aron, attends ma tamman du trop drôle au col blaz. En das dans le mésostronique. Grande ma mignonne gueltas. Hey. Guré et y'a fondu son trao. Belzo et Wam assemblé c'est lycée. Au vu tu n'y hélas. Mais qu'en butre et maintenant n'en faisait pas scrivant. Qu'en gorek pas dal pas strivant. A vu et ze war vénogène. Gatro you a distro you. A vu et ze war gom nao en dit d'inscrivant ar pojou. Scavalou,
Aziz trop barou. La quatrante vous est pavillon métal à micro. Tout scavalou, Aziz trop barou. La quatrante vous est pavillon métal à micro.
Mais je manquais d'astracal. A rue on croise un stracal. Clara allez véné. On aime gon en bas ma aîné. Aîné pour rien. Vigou piou vestronio ma buée. Pétaré l'en or vide ma. Et j'suis fait tout j'ai. Mais je manquais d'astracal. A rue on croise un stracal. Clara allez véné. On aime gon en bas ma aîné. Aîné pour rien. Vigou piou vestronio ma buée. Pétaré l'en or vide ma. Et j'suis fait tout j'ai. Cavalou à 10, pléga mes au vent de Zistaga. Memes heptaga, heptaga. Ni omdao, zo dies da Zistaga. Y'en a un duo, y'a 10 songes et des meuses, istit la. Heur vu et y'a remuskit, les meuses digares et zébit. Puis tu n'y as et décrit, les élons j'en mets à trédion. N'est métiquement, on roule loup d'yon. Vide ma refem casquada, j'vais t'équirna en est. Goulet tes meusen tout la d'mada gamfart et d'autres et routes cuites au classe voir l'air un endroal. Evite kavoudo, tom zilzi, gaben arfin, perso vito. En chacha mambras, eno endro, pelat vite gale et don endro.
Roder ke esel l'opretivo.
De dom d'azao, les chomim ke d'azao. A papo kavé d'arstir et la ridium kani de nal. Bloa véchou, a bloa véchou. Zotre mené d'abawé en dérou. En terrain, nom zé arvit tizou. D'ar pas de claque, a ta ou za chante va rastra.
La catane vous est, pavillon métal à micro. Tout scavalou,
Aziz trop
barou. La catane vous est, pavillon métal à micro.
Mais je manquais d'astracal, à rue Lyon croiseur stracal. Clara allez véné, on aime gon en bas ma aîné. Aîné pour rien, vigou piou vestronio ma buée. Pétaré l'en or vide ma et j'suis fait tout j'ai. Je manquais d'astracal, à rue Lyon croiseur stracal. Clara allez véné, on aime gon en bas ma aîné. Aîné pour rien, vigou piou vestronio ma buée. Pétard et l'envoi vit ma et je fais tout.
Stracal par le groupe Plouze à Fouen. Je ne sais pas si je prononce bien car je ne parle pas breton. C'était en tout cas le choix musical de Maïlys Boitel du réseau D1 qui a choisi un groupe de rap mené par deux anciens élèves du réseau et qui ont gagné le tremplin de la musique bretonne en 2023. Vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B, à écouter du lundi au vendredi sur le 94.0 ou sur canalb.fr. Canal B qui, on le redit souvent, vous ouvre son micro si vous avez des événements ou des actions à mettre en lumière, que ce soit avec une association, un collectif ou même une institution. Tant que l'événement n'est pas purement à visée lucrative, vous pouvez m'envoyer l'info par email à l'adresse lucie@canalb.fr et ensuite je reprends contact avec vous pour vous proposer un reportage sur le terrain, de l'annoncer sous forme de recommandation en fin d'émission ou de venir en parler ici avec nous en studio. Et tiens, c'est l'heure de l'interview du jour. François-Xavier Mérien, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes professeur émérite de l'Université de Lausanne, donc en Suisse. Vous êtes docteur en sociologie, agrégé en lettres et sciences humaines. Vous avez aussi déjà enseigné du côté de l'IUT de Rennes. Et puis surtout, je vous reçois aujourd'hui pour parler d'un ouvrage, L'eau et la ville, qui est paru aux presses universitaires de Rennes en septembre 2023. Ça vous va pour les présentations? J'ai rien oublié d'important?
Il y a quelques erreurs. Donc,
à corriger, corriger.
Du point de vue de ma biographie, donc effectivement, j'ai, d'abord pour situer les choses, je suis originaire de Quimper, où j'ai fait mes études secondaires et j'ai terminé en Hippocagne à Quimper. Puis j'ai fait des études de philosophie et de sociologie à l'université de Rennes, où j'ai ensuite enseigné dans les années 70 et 80. Avant d'être nommé maître de conférence à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, puis de devenir professeur à l'université Paris 8. Et enfin, j'ai terminé ma carrière à l'université de Lausanne en Suisse, où ils m'ont appelé, et je suis actuellement professeur émérite, c'est-à-dire de fait à la retraite, bien que je continue à mener mes recherches comme auparavant, donc ça ne change pas grand-chose dans ma vie, sauf que je n'enseigne plus, voilà.
On arrive à cet ouvrage, alors c'est pas par hasard hein, que ce livre sort maintenant, puisqu'en 1994, les presses universitaires de Rennes, qui étaient plutôt jeunes à cette époque, publiaient une version retravaillée de votre thèse en sociologie qui portait sur le thème de l'eau. Il était question de la bataille des eaux. Là, on est sur une version encore plus complète, remise au goût du jour, on peut le dire comme ça ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire l'ouvrage que j'avais publié en 1994, qui est donc effectivement issu de ma thèse de socio-histoire, on pourrait dire les choses comme ça, couvrait la période, pour simplifier, 1830-1914. C'est-à-dire, elle se centrait essentiellement sur le 19e siècle, sur les travaux, je dirais, de modernisation de la ville de Rennes. Point de vue de l'eau, la canalisation, la lutte contre les inondations. Le nouvel ouvrage est assez différent. Hein. Alors d'abord, je l'ai entamé parce que le premier était épuisé depuis un certain temps, m'a-t-on dit. Et donc, j'ai essayé d'aller plus loin. Donc, du point de vue de la période, si vous voulez, celui-ci remonte dans le temps. Donc, il remonte sur la période du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui, hein, ou en tout cas, au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale et quelques éléments de la période actuelle, parce que j'ai voulu comprendre ce qui s'était passé avant. Comment se posait le problème de l'eau dans la ville de Rennes avant le 19e siècle et puis après, parce que bien évidemment, je suis au courant de toutes les controverses qui ont eu lieu à Rennes, notamment sur le parking, sur la Vilaine. Donc ça m'a intéressé de reprendre et de prolonger. Donc si vous voulez, pour simplifier, toute la période du 19e siècle repose sur un travail absolument énorme que j'ai fait dans les archives départementales, les archives municipales de Rennes, mais aussi les archives nationales. Tandis que la période antérieure repose essentiellement sur les ouvrages de mes collègues rennais pour la plupart. Hein. Je cite en particulier le professeur Aubert qui a fait beaucoup de choses et qui était le successeur de Michel Lagré qui avait préfacé mon premier ouvrage. Donc voilà, c'est comme ça que ça se présente. Celui-ci, ce livre-ci, je l'ai repris pendant la période du Covid. et je me dis c'est le moment de le reprendre et de profiter de la modernisation hein, de ce qui n'existait pas à l'époque, c'est-à-dire Internet. Donc je me suis dit je vais en faire non pas un livre reposant uniquement sur l'écriture, mais je vais illustrer mon propos, puisque j'avais eu l'occasion en écrivant la première version, beaucoup plus courte bien sûr, de m'apercevoir qu'il y avait énormément de tableaux, de gravures, de lithographies formidables, qui pour la plupart n'avaient jamais été publiés à Rennes et qui donneraient une illustration formidable de cette de ce que j'appellerais la modernisation de Rennes, avec les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, hein, qui sont assez différents. Je me suis plongé essentiellement dans les archives et les illustrations que possède le musée de Bretagne, qui sont absolument extraordinaires. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier la conservatrice, Madame Manon Sixte, qui m'a beaucoup guidé dans ma recherche, dans le choix des lithographies, le choix des tableaux pour illustrer mon propos. Et ça a été un travail absolument formidable. Donc, le musée de Bretagne, que je remercie beaucoup, aussi le musée des Beaux-Arts, mais aussi une série de musées en France qui possèdent des illustrations absolument formidables. Donc ça, c'est l'histoire de ce livre. Et donc l'idée de retracer comment cette ville s'est totalement transformée. Donc une ville qui était bâtie sur le fleuve, qui était envahie par le fleuve, qui était vraiment un élément central de la ville de Rennes, pour aboutir à une ville dans laquelle l'eau a complètement disparu. L'eau est devenue purement souterraine, c'est l'eau des robinets, c'est l'eau des canalisations, dans laquelle on aperçoit à peine la Vilaine, alors que c'était un élément extraordinaire, hein, à la fois du point de vue positif et du point de vue négatif. Voilà ce que j'essayais de montrer par le texte, mais aussi par les illustrations, puisque c'est un livre qui contient 200 illustrations originales sur Rennes, la Vilaine et les transformations urbaines. Mmh.
Vous avez cité l'historien Gauthier Aubert qui signe une préface dans l'ouvrage dont on parle, où il rappelle que l'eau est un important objet d'histoire, et le propos que vous venez d'évoquer, il est découpé en quatre parties, avec une première partie sur l'empreinte des origines, où on se rappelle que Rennes, avant de s'appeler Rennes, s'appelait Condate, et qui justement tire son nom de la confluence entre l'île et la Vilaine. À quelle époque elle remonte, l'installation de la ville, et est-ce qu'on sait vraiment si c'était lié finalement à la présence de l'eau de cette installation?
Ce qu'on sait à peu près avec certitude aujourd'hui, mais je ne suis pas un historien de Rennes antique, hein, c'est que Rennes n'était apparemment pas un village gaulois comme on l'a cru pendant longtemps, mais c'est vraiment une installation romaine sur les collines qui dominent d'un côté l'île et de l'autre côté la Vilaine. Hein. Donc on peut considérer que Rennes, c'était essentiellement ce qu'on appelle aujourd'hui la ville haute, quoi, la ville qui domine le fleuve, pour des raisons, je pense, essentiellement stratégiques et militaires. Ça, c'est l'origine. Plus tard, donc au Moyen-Âge, la ville s'est étalée à la fois en haut, au-dessus des eaux et en dessous. Donc c'est une ville, si vous voulez, dans laquelle l'artisanat s'est implanté très rapidement dans la ville basse. Hein. La ville basse est donc la ville au sud de la rivière, avec notamment beaucoup de tanneries, des amidonneries, donc toutes ces industries qui ont besoin de l'eau pour vivre, et qui se développent dans cette vieille ville. Donc si vous voulez, pour eux, la présence de l'eau dans la ville n'est pas un inconvénient, mais au contraire, est le moteur de leur industrie. Et ça va se continuer jusqu'au 19e siècle.
C'est le cours de la Vilaine qui, en fait, dessine une ville qui est divisée entre la ville basse, que vous venez d'évoquer, et la ville haute. La ville basse, oui, voilà. Elle est régulièrement inondée. Il faut attendre, en fait, le 17e siècle pour que la pensée hygiéniste fasse son chemin avec l'idée de maîtriser un peu tout ça.
Oui, même au-delà, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que jusqu'au milieu du 19e siècle, si vous voulez, la ville de Rennes est donc pénétrée par ce fleuve qui pendant l'été évidemment réduit au minimum, mais qui pendant les autres périodes, les périodes des pluies, inonde complètement la ville basse, serpente dans la ville. J'ai reproduit un certain nombre d'illustrations, notamment de Lorette, d'Assolino, etc., de tous ces peintres, ces illustrateurs qui ont commencé à peindre juste avant ou au moment où on va se faire la canalisation. Et donc vous voyez que la ville de Rennes est complètement une ville dans les eaux, complètement inimaginable aujourd'hui, quoi. C'est un fleuve, certes pas énorme, mais c'est quand même un fleuve impétueux qui déborde facilement, que les gens utilisent par endroits pour pêcher, hein. Vous voyez, il y a beaucoup de barques dans la rivière, les gens pêchent en barque, se promènent sur les bords de l'eau. Donc la ville est vraiment pénétrée par l'eau. Et on commence à songer à sa canalisation, parce qu'évidemment le problème de la canalisation se pose pour différentes raisons, hein. Le premier, sans doute, c'est la question du commerce, hein, donc parce que évidemment Rennes commerce avec Vitré en amont, mais surtout avec Redon en aval. Et l'une des grandes préoccupations du siècle des Lumières, c'est comment améliorer le commerce. Et comme à l'époque on n'a pas de train et que les chemins sont peu praticable, l'idée principale, c'est d'améliorer la circulation sur la Vilaine, donc tout au long, et je retrace un peu toute cette histoire des écluses sur la Vilaine entre Rennes et Redon, Rennes et Vitré. Et puis c'est l'idée de faire en sorte que ce fleuve soit maîtrisé, que on puisse le traverser sans problème, que la ville basse cesse d'être inondée, etc. Mais, évidemment, pour des raisons financières, pour des raisons de priorité, il faudra attendre le milieu du 19e siècle, donc 1840, est le point de départ. En 1840, où on décide, une bonne fois pour toutes, de canaliser la rivière, et ce qu'on va faire de manière magistrale, en créant ce que j'appelle une tranchée au centre de la ville. Et c'est ça la particularité de la canalisation de la Vilaine dans Rennes, c'est que la rivière, elle est étroitement canalisée de manière extrêmement profonde, et ce qui change complètement le caractère de la ville. Vous verrez dans mon livre, il y a toute une série de peintures et d'estampes que je trouve remarquables, où on voit lavandières au bord de la rivière. Il y a énormément de lavandières. On voit les pêcheurs à pied, les pêcheurs en barque. On voit les promeneurs au bord de cette rivière. Et d'un seul coup, tout ça disparaît. Cette rivière, elle est encaissée. Elle va servir à la navigation pendant un certain temps. Et puis, c'est un petit peu ça le paradoxe de Rennes, puisque Rennes a mis beaucoup d'argent, beaucoup de budget pour canaliser cette rivière. Eh bien, c'est que, sous le Second Empire, le train arrive à Rennes et il va progressivement aller jusque dans le Finistère. Et le train va avoir pour conséquence que, dans le fond, la rivière cesse de servir à quelque chose, hein. Son utilité disparaît. Et puis, on va finir par la recouvrir, on va en centre-ville, puis on va l'élargir dans les années 60. Et la rivière cesse d'être un élément important de la ville de Rennes.
Ce mouvement paradoxal, donc, d'un accès à l'eau privée qui s'élargit, mais avec une disparition de l'eau publique, avec des réseaux qui deviennent enterrés, la mise en place d'égouts, etc. On le découvre dans le livre à travers, vous l'avez déjà dit, de nombreuses illustrations, des photographies, des cartes, des dessins qui viennent à la fois des archives de Rennes, mais aussi des archives départementales, du musée des Beaux-Arts, etc. Vous avez aussi trouvé des choses en ligne. Le peintre le plus représenté, c'est sans doute Hyacinthe Lorette, dont le nom revient régulièrement au fil des pages.
Ah oui, Lorette, c'est un illustrateur absolument remarquable, hein. Il a fait une bonne trentaine de lithographies, la plupart dans les années entre 1835 et 1840. Il a un trait de plume absolument extraordinaire et il sait, hein, donc c'est ça qui est intéressant dans le cas de Lorette, c'est que Lorette sait que ce monde va disparaître. Il sait que la rivière va être canalisée, que ce monde qu'il a devant les yeux, dans 10 ans, n'existera plus. Donc, il essaye de saisir par la plume tout. Alors, c'est tous les ponts de Rennes, la Vilaine entrant dans Rennes, la Vilaine aux différents endroits. Et j'ai retrouvé ces illustrations qui n'avaient jamais été reproduites, sauf une ou deux comme ça dans les livres de l'histoire de Rennes, de Aubert par exemple, ou d'autres livres du musée de Bretagne. Et j'ai essayé de les utiliser pour essayer de montrer les changements et à quel endroit ils se situaient. Et je crois d'ailleurs que pour les Rennais d'aujourd'hui, c'est important, parce qu'ils peuvent se reporter au livre et se dire, tiens, voilà où j'habite et voilà comment c'était vers 1840. Mmh. Et Lorette, il est formidable. Parmi les autres illustrateurs que j'aime beaucoup, vous avez Deux Rois. Hein, Deux Rois fait des choses formidables 20 ans plus tard, donc 1860. Tout n'a pas bougé. Hein. Vous avez par exemple un tableau que je trouve remarquable à la sortie de Rennes de la Vilaine, vers la Croix de la Mission, où vous voyez ces bateaux qui déchargent des marchandises, des lavandières en train de laver leur linge, etc. Parce qu'on ne peut plus le faire dans le centre-ville. Donc on le fait encore là. Ces tableaux, je le trouve formidable.
Au passage, ce qui est amusant, c'est que ce sujet, finalement, est d'une certaine façon, en ce moment, exposé à l'écomusée de la Bantinet à Rennes, qui nous parle du cuir et des tanneurs, et où on redécouvre cette histoire de l'externalisation des tanneurs hors de la ville au fil des années. Au passage, on le dit, il y a une quatrième et dernière partie qui est consacrée à l'accès aux eaux pures et aux réseaux souterrains dans votre livre, où on découvre notamment, redécouvre les travaux de couverture de la Vilaine qui sont finalement plutôt récents en 1912 et en 1963. Et ça nous amène à un sujet d'actualité puisqu'aujourd'hui la municipalité elle porte un projet de découverte de la Vilaine au niveau de l'actuel parking Vilaine qui je crois, ces travaux ils sont prévus pour 2025 si je dis pas de bêtises. C'est donc un dossier qui est encore ouvert. Vous dites dans le livre que Rennes pourrait redevenir la ville du confluent. Ça veut dire quoi?
Oui, je veux dire par là, si vous voulez, que toute la période antérieure, celle que je raconte dans mon livre, c'est la période de ce qu'on pourrait appeler la modernisation, qu'on pourrait appeler également, parce que je suis un spécialiste de la question, la construction de l'État-providence. C'est une période où l'homme a poussé au maximum la maîtrise de la nature. On a maîtrisé les aléas naturels, on a canalisé les fleuves, on a permis aux habitants d'avoir accès aux eaux pures, on a éliminé les déchets. Et tous les aléas naturels qui compliquaient la vie des habitants ont été maîtrisés. Okay. Mais ce qu'on a gagné d'un côté, on l'a perdu de l'autre. On a perdu la naturalité, on a fait disparaître le fleuve, on a perdu notre contact aux choses vivantes. Et notamment à l'eau, à tout ce que ça peut représenter, au contact de l'herbe, la prairie, l'eau qui coule, etc. Et donc on a créé l'hyperbole de la modernité, dont on voit d'ailleurs aujourd'hui, hein, je pense non pas à Rennes tellement, bien que, mais par exemple à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le Pas-de-Calais, hein, c'est-à-dire que on a maîtrisé la nature, et puis d'un autre côté, bah, la nature elle se venge de l'autre, hein, elle se venge par les inondations, elle se venge d'autre part par les pénuries d'eau, si vous voulez, etc. Donc aujourd'hui, j'espère, j'en suis sûr que d'autres chercheurs vont prolonger mon travail et ceux d'autres historiens ou sociologues sur la période contemporaine, parce qu'on est entré dans la période postmoderne. Si vous voulez. Les problèmes se posent totalement différemment. Aujourd'hui, il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut conjuguer le naturel et l'artificiel, comment on peut conjuguer la vie des habitants, profitant de toute une série d'avantages, et préserver ce qui est quand même essentiel, qui est la nature. Moi, ça me paraît tout à fait essentiel. Alors, je sais que dans Rennes, il y a un débat très très fort là-dessus. Hein. Pourquoi ? Parce que bien sûr, on est habitué à la voiture, on est habitué au parking, on a peur des embouteillages, et donc ça a construit un énorme conflit, si j'ai bien compris, dans l'opinion publique rennaise. Moi, je pense qu'il faut quand même essayer autant que possible de retrouver le cœur de cette ville, redécouvrir le fleuve, redécouvrir la nature et essayer de construire une civilisation un peu différente. Et vous avez d'autres cas dans le monde. Hein. Je cite dans mon introduction, je cite notamment le cas de Séoul, qui est un cas extrêmement connu, hein, puisque à Séoul, vous aviez une rivière enterrée comme ça, au centre-ville, sur laquelle passait quasiment une autoroute, hein, qui coupait la ville en deux. Et Séoul, il y a déjà une bonne vingtaine d'années, a eu l'idée de casser cette autoroute, de la détruire complètement, de redécouvrir complètement son fleuve et d'y construire une promenade avec des arbres, des allées, etc. Et ça a été quelque chose pour les habitants de Corée du Sud d'extraordinaire. Ils ont redécouvert leur fleuve au centre-ville, ils ont redécouvert la nature, ils ont redécouvert les oiseaux. Et c'est un exemple qui est mondialement connu. Alors, je ne dis pas qu'à Rennes, on puisse faire la même chose. Hein. Mais en tout cas, ça nous montre qu'il faut oser rêver, qu'il faut oser imaginer une ville qui soit différente de celle dont rêvait l'ancien maire Henri Fréville en 1963 et avant. À l'époque, Fréville disait... Il voulait faire de cette partie de la ville, c'est-à-dire le long des quais, il voulait en faire le Champs-Élysées de la Bretagne. Ça nous fait un petit peu rire ou sourire aujourd'hui. Et il est bien évident que l'habitant d'aujourd'hui rêve d'autre chose et que cette autre chose est commencée, bien sûr, et qu'il faut oser aller de l'avant.
Le détail des sujets qu'on a évoqués, il est à lire dans un livre de près de 270 pages, son titre « L'eau et la ville, Rennes, une histoire », ouvrage que vous avez écrit. François-Xavier Emérien, c'est paru au mois de septembre aux presses universitaires de Rennes et son tarif est de 45 euros. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous.
Union soviétique, modèle idéal, la Corée du Nord, bon système social, ticket de rationnement. Dénonce ton voisin, culte du chef, c'est notre champion. Gloire au parti, à tous les travailleurs, hymne national, on va les niquer. C'est nous les meilleurs, on va la gagner. Achète une merguez pour la caisse de grève. Santé mon Bernard, pour tous tes milliards. Le bon politique, c'est celui qui fraude. C'est celui qui fraude. Paradis fiscal, soleil agréable. Laissez nos banquiers, laissez-les travailler. Les États-Unis, la fierté des armes. Arabie Saoudite, le respect des femmes. Centre commercial, c'est vraiment génial. Centrale nucléaire, une énergie viable. Dans les abattoirs, confort de l'animal. En Amazonie, ils aiment les arbres. Arrêtez de critiquer, retournez dormir. Allez travailler, retournez dormir. Vive la nation, vive la légion. Il faut garder notre fric, on emmerde les régions. L'écologie ça sert à rien, tout ça c'est du bidon. Faut plus de gasoil pour notre nation. Envoyer l'armée, sans limite ni restriction. On veut tout consommer, surtout si c'est moins cher. Fermez les associations, foutez-les en prison. C'est une conspiration, tous les pauvres et les chiens. Armée obligatoire, dès l'âge de 16 ans. Discipline et volonté pour notre intégrité. Car ce monde est génial. Car ce monde est génial. Car ce monde est génial.
Génial.
Conspire par Gwendoline sur Canal B, une nouveauté musicale qu'on retrouvera sur un album, C'est à moi ça, album attendu pour le 1er mars sur le label Born Bad Records, et ce sera le deuxième disque pour ce duo rennais. Une seule date est annoncée pour l'instant, ce sera pour fêter la sortie de leur album le 1er mars au 104 à Paris, mais d'autres concerts devraient suivre. Vous êtes en train d'écouter La Reine sur Canal B. On passe à la recommandation du jour de Corentin, volontaire en service civique, puisque chaque jour, en fin d'émission, on termine avec des conseils de choses parfois à se mettre dans les oreilles, à lire, à voir, souvent à vivre près de chez soi.
La recommandation du jour, c'est deux rendez-vous sur la thématique des déchets proposés par Rennes Métropole. On commence avec Trick Troc Mobile. C'est un point de collecte de déchets qui se déplace entre les différents quartiers de Rennes pour permettre aux habitants de déposer leurs encombrants et déchets en tout genre au plus près de chez eux. C'est la version évoluée de la déchetterie mobile, un dispositif mis en place depuis plusieurs années dans la ville. La nouveauté, c'est que maintenant, sur chaque point de collecte, il y aura une zone de troc dans laquelle on pourra déposer ou récupérer des objets en bon état, tels que des jouets, des livres ou des petits meubles. Chaque semaine de l'année, un point de collecte sera disponible dans deux quartiers différents. Cette semaine, jusqu'au 13 janvier, Trick Troc Mobile s'est installé place Odette Sever dans le centre-ville, ainsi que rue du Morbihan dans le quartier Morpa. La semaine prochaine, les points de collecte se déplaceront direction l'avenue d'Italie dans le quartier du Blône, ainsi qu'au square de Champagne à Villejean. Pour être au courant de quand la Trick Troc Mobile passe dans votre quartier, vous pouvez retrouver le planning de l'année sur métropole.rennes.fr. En ce moment se déroule également l'opération Sapin Malin. Dans Rennes Métropole, de nombreuses zones dans lesquelles vous pouvez déposer votre sapin de Noël ont été mises en place. L'objectif est de les recycler en les broyant afin d'en faire du compost pour la ville ou les particuliers. Des animations sur la réutilisation du broyat seront organisées le 20 janvier sur différents points de dépôt. À Rennes, ce sera Place du Souvenir de 15h à 17h. À l'issue de ces animations, vous aurez la possibilité de repartir avec du broyat de sapin à réutiliser chez vous. La liste des points de dépôt ainsi que des animations de broyage est disponible sur métropole.rennes.fr.
La Reine, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter Le Courrier de la Reine. Le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Je vous dis à bientôt.